Interview.
2 jours.
Claire Volz, bonjour.
Bonjour.
Et nous avons aussi Denis Lebioda, bonjour.
Bonjour.
Tous deux, vous êtes installés sur un même stand, l'une en tant que animatrice au sein d'une maison intergénérationnelle, c'est ça ?
Un jardin intergénérationnel, l'Ourte de Bénévent, qui est basé dans le Champsaur, près de Saint-Bonnet dans le Champsaur.
Et Denis Lebioda, donc auteur, photographe, et vous exposez des images justement prises dans ce jardin intergénérationnel. Et pour vous, qu'est-ce que vous avez voulu concilier entre vos deux activités sur cet aspect photographique notamment, et puis peut-être d'autres ?
Je suis photographe depuis de nombreuses années, et puis je suis venu aux précédentes éditions de Tous en bottes. Je travaille beaucoup sur le monde agricole, le monde rural. Et grâce à l'Ourte de Bénévent et à Claire Volz, il y a maintenant 7 ans, j'ai été embarqué dans cette belle aventure d'un jardin de liens intergénérationnels. Et c'est quelque chose qui me plaît et me motive beaucoup, de photographier des personnes âgées, des personnes handicapées, des personnes abîmées par la vie, et de mettre un peu en lumière à travers mon travail cette vraie question sociale qui est maltraitée ou oubliée, qui est celle du grand âge, où on a malheureusement, je vais parler cash, mais on met les vieux dans des placards, on les cache, on les laisse dans leur chambre derrière la télé, et on ne les voit pas dans la vie sociale. Et grâce à l'Ourte, ils peuvent sortir, rencontrer d'autres personnes, mener des activités. Alors évidemment, ça demande des moyens. C'est toute la question de la politique du grand âge, de la politique des maisons de retraite, les scandales dont on a entendu parler il n'y a pas très longtemps, et qui ne sont pas résolus pour autant. Et je crois qu'il y a un vrai travail important, une vraie question de société autour de ce qui nous arrivera tous un jour ou l'autre. On a quand même de grandes chances de vivre un certain temps et de vivre des fins de vie qui sont plus ou moins compliquées. Et ce travail qui a été initié par l'Ourte de Bénévent dans le Champsaur est assez remarquable sur cet aspect-là.
Le Champsaur, comment peut-on définir ce nom ?
Le Champsaur ?
Le plus beau pays du monde.
c'est un lieu, déjà ? C'est un village ?
L'Ourte de Bénévent. Donc le Champsaur, c'est une région, et l'Ourte de Bénévent, c'est un jardin qui crée du lien. Donc Bénévent, c'est un lieu dit, un petit village. Et l'Ourte, ça veut dire jardin potager en patois alpin. Et donc l'idée de l'Ourte de Bénévent, de ce jardin, c'est un jardin qui tisse du lien, qui favorise les rencontres autour d'activités qui vont se passer dans un jardin. C'est un jardin qui a été conçu comme un jardin de déambulation et qui soigne particulièrement l'accueil des plus fragilisés par l'âge, la maladie ou le handicap, et qui accueille un public intergénérationnel tous les mercredis entre avril et fin octobre. Donc on accueille les gens à partir de midi pour un pique-nique partagé. Et après, on propose des animations qui vont se passer dans ce jardin. Et dans un jardin, on peut tout faire. Donc on fait beaucoup de choses variées. Et voilà.
Et donc, ce jardin existe depuis 1983, c'est ça ?
Non, le jardin, il existe depuis 2017. Et 1983, c'est l'association qui a créé et porté le jardin jusqu'en 2022. Et en 2022, on a créé notre propre association.
Voilà, et donc c'est l'association Bien Chez Soi qui était à l'initiative.
Donc l'association Bien Chez Soi s'occupe du maintien à domicile de personnes âgées et gère un service de soins infirmiers à domicile.
Alors comment vous est venue cette idée de proposer ce jardin intergénérationnel ? Pour vous, c'était une évidence ? Est-ce que vous avez eu le soutien aussi de collectivités pour lancer cette idée ?
Alors c'est une idée qui est née d'une rencontre. Avec le constat de dire que dans le Champsaur, on avait pas mal de personnes âgées et où le jardin a toujours eu une place importante dans la vie des habitants. Alors après, au niveau des soutiens, on a un grand soutien de la commune de Saint-Bonnet qui met à disposition le jardin et qui nous aide aussi techniquement. Et puis après, on a des aides du département, de différentes institutions qui peuvent nous donner des subventions. Et on a été beaucoup aidés au démarrage par la Fondation de France, qui nous a aidés sur 2 ans. Et c'est ça qui nous a vraiment permis de lancer l'initiative du jardin.
C'était un jardin privé, municipal au départ ?
Alors, c'était un terrain municipal qui servait un peu à rien. Donc, il est situé dans ce petit village de Bénévent, entre l'ancienne mairie, l'église et des anciens gîtes, dans un endroit tout à fait charmant et bucolique et qui correspond vraiment bien à ce qu'on voulait faire. Donc, c'était un terrain qu'on a aménagé au fur et à mesure en faisant pratiquement tout nous-mêmes grâce à l'énergie d'une équipe de bénévoles qui tourne autour de ce projet.
Comme ça, par curiosité, Bénévent, combien d'habitants ?
Là, vous me posez une colle. c'est tout petit. C'est
une
tout petit.
Centaine d'habitants, peut-être, un peu plus.
À mon avis, autour d'une centaine d'habitants, ouais, pas plus. Et c'est encore une commune assez rurale et agricole. Voilà.
Est-ce qu'il existe une intercommunalité aussi autour de ce lieu et est-ce qu'elle est partie prenante aussi dans dans ce jardin intergénérationnel?
Alors, il existe la communauté de communes du Champsaur-Val-Gaudemar, qui est, on va dire, un partenaire pas financier, mais qui soutient moralement. La plupart des élus qui font partie de la communauté de communes sont élus aussi des communes avoisinantes et nous aident notamment avec la commune de Saint-Bonnet. Donc il n'y a pas de financement direct de la communauté de communes, mais un soutien, un accompagnement, une bienveillance qui permet quand même de développer pas mal d'activités. Mais ça repose, comme le disait tout à l'heure Claire, en très très grande partie sur du bénévolat. Ce qui est intéressant, c'est qu'autour de Claire, animatrice professionnelle, il y a 15-20 personnes qui en permanence sont mobilisées pour faire vivre les activités et donnent de leur temps.
J'imagine que les familles aussi sont partie prenante, que ce soit pour les jeunes, les personnes âgées aussi. Toutes prennent part un peu à cette activité.
Il y a des familles, mais la particularité aussi de l'Ourthe de Bénévent, c'est qu'il y a des personnes âgées elles-mêmes qui deviennent de plus en plus actrices du projet et qui donnent du temps et qui proposent des choses et qui amènent aussi leurs idées pour aménager encore mieux le lieu. Donc c'est vraiment un lieu où de plus en plus de gens sont actifs dans leur manière de participer.
Et donc sont créés et destinés à tout public en quelque sorte des animations. Là je vois les rencontres intergénérationnelles, l'atelier de psychomotricité, le grand pique-nique également, ramène ta pomme, enfin des activités qui lient donc toutes les générations. Comment s'articulent les activités? Est-ce que les personnes âgées sont là aussi pour transmettre un peu leur savoir aux enfants qui sont présents?
Alors c'est comme c'est le mercredi, c'est pas toujours facile de travailler avec les écoles parce que le mercredi c'est le jour où les écoles sont en congé et c'est aussi le jour où les enfants ont des activités. Donc on a des enfants, mais c'est pas la majorité de notre public. Mais les échanges peuvent très bien se faire entre personnes de même âge. Donc là il y a cette transmission qui est bien là, les échanges qui sont bien là. Et au niveau des activités, les activités elles se mettent souvent en place par des rencontres. Donc la plupart de ce qu'on programme, c'est suite à des rencontres ou des envies des gens qui participent à l'Ourthe de Bénévent. Alors après, on a des choses qui reviennent d'une année à l'autre. Voilà 2 ans qu'on a une activité qu'on mène sur plusieurs mercredis, donc c'est une sorte de fil rouge. L'année dernière, on a travaillé avec une conteuse autour du conte. Et donc, au terme de 7 séances, on a abouti à l'écriture d'un conte qui s'appelle « L'art de bien vieillir », je pense, oui. Et cette année, notre fil rouge sur plusieurs séances va être une collaboration avec le Festival de Chaillol. Et on va travailler au niveau d'un, d'une chorale éphémère qui va aboutir à une grande fête qui aura lieu à l'Ourthe de Bénévent.
Denis Le Bioda, vous-même êtes photographe donc, et vous exposez une série de clichés prises lors de ces activités de jardin. Déjà, les images sont très belles. Hein, on peut dire qu'il y a un très beau piqué. D'ailleurs, votre appareil y est pour quelque chose, non ?
On peut dire que l'appareil fait tout le travail. Le photographe, il fait juste porter le machin et il appuie sur le déclencheur. Non, au-delà de la plaisanterie...
Il y a quand même le cadrage la mise au point.
Il y a surtout le fait que j'ai la chance de suivre depuis 7 ans cette aventure, que je suis connu par les personnes qui fréquentent le jardin. Et je ne boude pas mon plaisir, parce que ça serait rare dans une vie de photographe de pouvoir se fondre dans la durée dans un groupe humain, de photographier tout à fait librement les gens, de faire, comme on le voit dans l'exposition, des portraits, des gros plans, et d'être complice avec eux. Je crois que c'est pas toujours évident, notamment par rapport à la question du grand âge ou du handicap, de faire des photographies de ces personnes. Alors quand on a la chance de pouvoir le faire, on en profite. Et c'est donnant-donnant, c'est-à-dire que ces personnes m'autorisent à les photographier, mais dans le même temps, moi, je contribue, comme je le disais en introduction, à rendre visible leur image, leur situation, leurs difficultés, mais aussi leur joie de vivre. On voit sur nos photos, et c'est ce qu'on veille à faire avec Claire Volz, c'est de mettre en situation valorisante ces personnes et de montrer que c'est pas parce qu'on a 80, 90, 96 ans, qu'on a des béquilles, un déambulateur ou un fauteuil, qu'on doit être forcément triste, moche et pleurer tout le temps. Donc il y a toute cette volonté de montrer que, bien encadrées, les personnes âgées peuvent avoir encore des moments de joie, de bonheur, de plaisir, d'échange, de repas, de rigolade avec d'autres personnes. Et de créativité aussi, puisqu'elles participent à un certain nombre de créations d'œuvres d'art qui sont ensuite présentées au public.
On parle d'atelier. Est-ce que la photographie est une proposition faite donc dans ces jardins aussi ? Est-ce que je pensais au sténopé. Est-ce qu'il y a peut-être une idée de travail, puisque ça ne nécessite pas grand-chose en outil ?
On ne l'a pas encore fait. Par contre, autour de la photo, bon, outre les photos que je fais, on fait tous les ans une animation où les gens viennent se faire prendre en photo. Cette année, ça sera en compagnie d'une compagnie clown. Et on imprime les photos tout de suite et les gens repartent avec leurs photos, ce qui est relativement magique. Et on a fait une expérience intéressante, c'est-à-dire que je fournis des tirages de mes photographies et on invite les personnes âgées à écrire sur ces photos ou à dessiner avec des crayons, des feutres. Et on a donc une création à 2, 3, 4 personnes et c'est intéressant de voir leurs réactions. Et ensuite, ça produit des images qui sont intéressantes avec du texte et des choses assez spontanées, des messages sensibles qui sont quelquefois touchants, émouvants. Je crois que l'outil photographique peut à un moment donné aussi permettre de remettre un peu en selle et en situation des personnes qui vivent pas forcément très bien leurs difficultés, leur handicap, leur âge.
Et puis avec les photos que Denis réalise, il montre un regard positif sur la personne vieillissante et même pour la personne âgée. C'est des fois très émouvant de voir la réaction qu'elle peut avoir en se voyant en photo. Je pense à une dame qui, en se voyant ou en voyant les photos, a déclaré « Mais c'est incroyable, on est tous beaux !» Alors que quand on se regarde dans une glace, on se trouve tous moches. Et donc ça, c'est vraiment le côté très revalorisant des photos de Denis et le message vraiment qu'on veut essayer de transmettre, c'est pas parce qu'on vieillit qu'on n'est plus une personne à part entière qui vaut le coup et à qui il faut encore continuer à s'intéresser.
Vous parliez des animations qui ont lieu essentiellement le mercredi, c'est ça ?
Donc il y a des animations tous les mercredis et en plus des mercredis, ça fait 3 années qu'on organise des journées spécialement destinée aux aidants qui peuvent être accompagnés de leur aidé ou aux anciens aidants. Et c'est des journées, un temps pour soi, qui permet à ces personnes de s'octroyer une journée pour elles dans un cadre hors maison. Et ça se déroule autour de la détente et de la créativité, donc autour de sophrologie, de massage assis et d'ateliers d'expression créative, avec la place pour l'échange. Donc on fait ça sur toute une journée, avec l'accueil café, le pique-nique ensemble et le goûter, qui sont des petits moments informels où on peut parler de tout et de rien, en toute simplicité.
Et puis j'imagine qu'il y a un peu de jardinage autour de ça.
Oui, on fait du jardinage. Alors là, chacun peut arriver avec ce qu'il a envie de planter. Donc c'est un jardin un peu pas très très organisé, dans le sens où on plante un petit peu comme on le sent. C'est un jardin où on a voulu vraiment aussi préserver la biodiversité. Donc certains vont pouvoir dire que c'est peut-être pas un jardin très bien ordonné, parce qu'on laisse une part aussi aux plantes sauvages. Mais bon, les plantes sauvages font partie de cette biodiversité. Et c'est important pour nous de montrer que dans un jardin, il faut aussi maintenir le côté sauvage. Voilà, biodiversité au jardin, comme la biodiversité du public qu'on accueille.
Les enfants ou adultes prennent part aussi au jardin? Est-ce qu'ils sont motivés? Qu'est-ce qui se passe entre les générations présentes?
Et tout le monde peut prendre part au jardin. Dans un jardin, il y a le côté aussi plantation, mais il y a aussi le côté contemplation. Donc nous, on essaye que le jardin soit joli, agréable à regarder, et que ce soit un espace apaisant. Et donc je pense que tout le monde en profite, que ce soit en jardinant ou en profitant de tout ce qui est tout ce qui a été installé.
Denis Lebioda, donc vous êtes là avec votre appareil photo et vous immortalisez en quelque sorte ces moments. Et puis nous sommes aussi devant votre stand où sont présents au moins une dizaine d'ouvrages dans lesquels vous avez participé ou créé.
Oui, tout à fait. J'ai aussi, en dehors de Lourdes de Bénévent, une autre activité photographique, en fonction des opportunités, sur un certain nombre de domaines. Plus généralement, quand même, tourné autour des Hautes-Alpes et du Champsaur, je me revendique comme un photographe de territoire. Avec mon épouse Brigitte Lebioda, nous avons créé une petite maison d'édition qui s'appelle La Vie qui va. Et nous réalisons un certain nombre d'ouvrages qui allie à la fois la photographie et le texte, plus quelques ouvrages qui sont publiés par d'autres éditeurs qui sont intéressés par mon travail. Donc on est heureux de les présenter aujourd'hui au public.
Vous-même, donc, êtes photographe professionnel. Votre activité, vous avez toujours travaillé dans cette optique de créateur, en quelque sorte, d'auteur, photographe, ou alors vous avez participé ou travaillé pour d'autres moyens de photographie ou de communication?
Alors, j'ai fait beaucoup de choses dans ma vie, avec toujours un fil rouge autour de la photographie. Ma principale passion, mon centre d'intérêt, c'est ce qu'on va appeler une photographie sociale, humaniste, humaine, qui n'est pas toujours facile à faire dans le cadre d'une carrière professionnelle, parce que ce n'est pas forcément très rentable, hein, il faut le dire. Photographier des gens ordinaires, où il n'y a pas de sang, pas de larmes, pas de guerre, ou pas de stars, ou de couronnement de roi ou de reine, c'est pas très vendeur. Donc maintenant que je suis officiellement à la retraite et donc un peu rentier, je me venge ou je rattrape le temps perdu pour travailler vraiment sur des sujets qui me tiennent à cœur, comme celui du grand âge, du handicap. J'ai beaucoup de travail aussi autour du monde agricole et rural, les artisans. Pour résumer un peu la vie de tous les jours, la vie ordinaire, la vie des gens normaux qui ne sont pas forcément des rois, des reines ou des stars de la télé-réalité. Vous, moi et plein d'autres, et c'est pas ce qui manque dans notre beau département. Et ça m'intéresse, de garder une trace de cette vie quotidienne, que ce soit avec les gens, mais aussi, c'est le cas de certains de mes ouvrages, autour de bâtiments, de maisons, d'éléments du patrimoine qui n'ont pas vocation à être conservés. C'est pas Versailles, c'est pas des monuments historiques, mais c'est là où nous, où les générations qui nous ont précédés, ont vécu. Et tout ça, je pense qu'il faut en garder une trace. Je suis un peu, d'un certain côté, un fanat de l'histoire et je fais partie de ces photographes qui déplorent le manque de volonté de garder des traces du passé et d'archiver des photographies et de les garder pour d'éventuelles générations futures.
Je ne sais pas si je peux vous poser cette question. Vous êtes au courant actuellement d'une inquiétude face à certaines intelligences artificielles qui se mettent à créer des photographies. En regardant de près, on se rend compte que il y a des détails qui ne trompent pas, que ce soit le regard ou les mains, par exemple. Mais ça semble évoluer de plus en plus vite et de mieux en mieux. Est-ce que pour vous... Est-ce que vous ressentez en quelque sorte une inquiétude ?
Alors, la technologie en tant que telle, je la trouve fabuleuse. C'est comme Internet, c'est comme la photographie quand on l'a inventée ou l'électricité. Après, l'usage qu'on en fait est pour le moins inquiétant. Si je dois parler de la profession de photographe, elle a pris déjà une grosse claque dans les années 2000 avec l'arrivée du numérique et l'effondrement des tarifs que... entre autres la presse accepte de payer. Là, avec l'arrivée de ce qu'on appelle de l'intelligence, qui n'a rien d'une intelligence, c'est la deuxième étape et peut-être la plus dramatique de l'aventure, puisque les commanditaires, et notamment la presse, s'affranchissent totalement des droits d'auteur et du droit à l'image. Donc ça, c'est déjà le premier problème qui économiquement est dramatique pour les photographes. Et ensuite, par rapport au public, c'est la porte ouverte à toutes les manipulations. On a vu ces derniers temps, sous forme de blagues, c'est amusant, un Emmanuel Macron sur des barricades ou en train de taper sur des casseroles. Ça fait rigoler, mais ça ouvre la porte à n'importe quelle manipulation dans la photo dite d'actualité. Et là, je trouve qu'il y a... de la part des pouvoirs publics, mais aussi de l'éducation nationale, des simples citoyens, des associations, un manque de réactivité par rapport à ce danger très important, de pouvoir faire dire plus que jamais à peu près n'importe quoi à une image, sans bien sûr avoir en référé à quiconque. Et comme ce sont des algorithmes qui s'inspirent de ce qui a été fait, c'est un pillage du travail des générations précédentes. Aujourd'hui, je connais des gens qui s'amusent à dire « je prends mon grand-père en photo et je demande à l'intelligence artificielle d'en sortir une photo à la manière de Cartier-Bresson ou de Viviane Mayer ». Bien sûr, personne n'ira payer les droits d'auteur à Cartier-Bresson ou à Viviane Mayer. Et personne ne touchera de droits d'auteur sur ce genre de photo qui est complètement manipulé, artificiel. On est en plein dans le monde des fake news. Je pense qu'une certaine presse, certains médias devraient s'en préoccuper. Aujourd'hui, je trouve qu'on n'en parle pas assez dans ce sens-là.
Est-ce que pour vous... j'ai perdu... non, c'est pas... Merci. Claire, pour vous, l'activité se passe plutôt sereinement ou alors parfois il peut y avoir quelques inquiétudes? Comment s'est passé par exemple le Covid? Ça a été un petit peu dur pour ce jardin?
Eh bien, j'ose pas trop le dire, mais pour nous, non, ça s'est très bien passé. Alors, c'est vrai qu'il y a tout un public qu'on a perdu, c'est le public des EHPAD, où le public était accompagné par les structures. Mais moi, à ma grande surprise, on a vu arriver des gens, donc des personnes âgées, qui sont venues d'elles-mêmes, qui avaient ce besoin de lien, de retrouver des gens, qui souffraient de devoir manger seuls aussi. Et du coup, on a retrouvé un autre public, des gens valides qui ont un certain âge. Donc on a quand même, je pense à un monsieur qui vient régulièrement, il a 95 ans. Au début de la création du jardin, les anciens qui venaient, c'était surtout des anciens qui étaient accompagnés par des institutions. Et le Covid nous a amené des gens qui étaient valides encore chez eux, autonomes, plus ou moins autonomes. Et voilà, nous, on n'a pas trop souffert au niveau de la fréquentation avec le Covid. Voilà. Et le fait aussi qu'on soit en extérieur, ça, ça nous a beaucoup aidé. C'est vrai que tous ceux qui étaient en intérieur ont dû réduire très fort leur fréquentation. Nous, le fait qu'on soit en extérieur avec un masque, ça passait beaucoup plus facilement que d'être entassé dans un espace réduit. Donc voilà, et le jardin a révélé aussi toute sa raison d'être, ce lien, cette importance de pouvoir se retrouver, de communiquer, d'échanger et de partager des choses.
Alors, par rapport à... C'est bon ?
Non, je peux continuer sur ce thème-là pour dire que le Covid est passé, mais que malgré tout, c'est quand même pas toujours facile d'accueillir des publics de personnes handicapées, de personnes Alzheimer, de personnes qui ont des troubles psychologiques ou neuro, je ne sais plus comment on dit. Ça se passe généralement très bien dans la mesure où les accompagnants et ceux qui accompagnent et font vivre l'ourte font preuve d'une grande bienveillance et aussi de professionnalisme. Dès qu'il y a une tension qui monte, on sent, enfin moi je le vois en tant que photographe, c'est pas mon boulot, mais je l'observe. Il y a toujours quelqu'un qui est là pour accompagner la personne qui, à un moment donné, est un peu en difficulté ou commence à avoir une petite crise de panique ou est perdue, sait pas où aller. On a connu des séances avec une grand-mère Alzheimer, adorable, qui, tous les quarts d'heure, nous demande où on est. Elle est originaire du coin, mais elle ne connaît pas, elle ne reconnaît pas. Elle se rendort et puis un quart d'heure après, ben où on est ? Donc on recommence, on lui explique. Et il y a tout ce travail qui est important, qui ne se fait pas quand les personnes sont en institution, où on les laisse dans leur chambre, s'ils râlent un peu trop, on leur file un médicament et on n'en parle plus. Alors que là, on y est, et il y a toujours un soignant ou quelqu'un, genre infirmière en retraite, qui connaît ce genre de public, qui s'occupe d'eux, qui les sécurise, qui leur raconte des petites histoires, qui les accompagne. Et ce qui est assez étonnant, c'est que les soignants nous racontent que quand les gens réintègrent chez eux, rentrent à l'hôpital ou dans un EHPAD, après une journée à Lourdes, elles sont mieux, il y a moins besoin de médicaments. Donc ce travail en pleine nature, cette manière de les accompagner, leur faire vivre quelque chose qui les change de leur quotidien, est quelque chose de très bénéfique pour la santé.
Et puis peut-être une particularité à Lourdes, c'est qu'on... On arrive à accueillir la personne telle qu'elle est. Donc chaque personne est une personne à part entière. Ce n'est pas une personne diminuée, ce n'est pas une personne handicapée, c'est une personne à part entière. Et le fait d'arriver à l'accueillir comme ça, je pense que ça fait beaucoup de choses. Et au niveau des animations, moi je vais dire, les animations, elles se passent souvent de manière très facile. C'est très joyeux. Ça vaut le coup de venir une fois vivre cette journée parce que on peut avoir l'image avec un public un peu vieillissant d'un truc un peu morose, un peu triste, un peu et c'est pas du tout. C'est l'humour est là, les rires, enfin c'est très joyeux. Il y a beaucoup d'échanges. C'est une atmosphère. Moi je trouve très détendue, hein, apaisante et qui donne envie de continuer.
Le terme ouorte, c'est de quelle origine ?
C'est du patois alpin, du provençal alpin. Provençal alpin, et ça veut dire jardin potager. Donc voilà, au moment de choisir le nom, on a un peu essayé de voir comment on pouvait dire jardin dans le provençal alpin, et c'est le nom qu'on a retenu. Donc c'est la racine, horticulture, ortillonnage...
Et donc un jardin nécessite une présence quasi quotidienne pour son entretien ou son rafraîchissement. Qui y agit ?
Eh ben, c'est un jardin qui n'est pas entretenu au quotidien, qui est entretenu une ou deux fois par semaine. Après, on a des voisins qui peuvent être bienveillants au niveau de l'arrosage. Et bon, on a la chance d'être dans le Champsaur aussi, donc... on souffre peut-être un peu moins de la sécheresse et c'est un jardin qui arrive à tenir le coup d'un mercredi à un autre mercredi avec un petit coup d'arrosage quand il fait très chaud de la part du voisinage.
Voilà, donc le Drac, hein, c'est la rivière qui traverse le terrain, le territoire.
Alors le Drac, il traverse en bas de Saint-Bonnet. C'est la rivière qui va partager la phare en Champsaur d'un côté et Saint-Bonnet. Et nous, on est un peu en hauteur par rapport à Saint-Bonnet, à 2 km. En allant vers la chapelle, la célèbre chapelle des Pétettes.
Pour vous découvrir, il existe une page Facebook. Hein, la page s'intitule Loueurs de Bénévent.
Oui.
Et je mettrai le lien sur le site de l'émission. Et pour vous, Denis, donc il y a un site internet denis-lebioda.com.
Tout à fait, sur lequel on peut découvrir l'ensemble de mes photographies passées et récentes. Et à venir.
Une dernière question pour vous, Claire. Cette création de ce jardin, est-ce qu'il était nécessaire du point de vue du dispositif existant pour les personnes âgées? Qu'est-ce qui était proposé à leur actif ou à proposer tout simplement pour les animer?
Je pense que l'Ourthe est un lieu atypique et qu'il y en a peu. Et une petite conclusion qui avait été faite l'année dernière à la fin de la saison, c'est les gens qui viennent à l'Ourthe ont dit « mais chaque village devrait avoir son Ourthe ». Donc avoir un lieu ouvert à tout le monde qui accueille un public intergénérationnel et où on peut proposer des activités à la portée de tout le monde. Voilà.
Merci à vous deux.
Merci à vous.
Merci. Au revoir.
Au revoir.
Thank you.
sais.